Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Je crois que mon enfant a des questionnements de genre. Ça me fait mal et je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne suis pas transphobe et je ne comprends pas là ce qui se passe en moi.
C'est vrai que bah forcément tu te poses des questions sur... que t'as raté un truc, voilà, c'est quand même, c'est là, quoi.
Quand j'étais petit, je voulais, quand je m'imaginais plus grand, je me voyais comme un homme, quoi, avec de la barbe et tout. Mais je pensais que ça allait se faire comme ça.
Des fois, je me lavais en sous-vêtements, des fois, je me lavais dans le noir. Et ouais, à ce moment-là, tu dis, ouais, je suis un monstre, quoi.
Ouh là là, c'est la décadence, hein. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Contre-nature.
Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de...
Contre-nature.
Alors on l'a pas tous fait en même temps, mais c'est très
grave.
Bien quand même. J'ai beaucoup aimé
on a
cette...
senti l'intention. Du coup aujourd'hui ça va être un épisode sur la transidentité avec donc accompagné d'une maman, donc une personne trans, un jeune trans accompagné de sa maman.
Épisode très spécial pour nous pour le coup parce que ouais. Justement on nous réclame, on nous dit souvent parler de transidentité mais avec les parents parce que les parents justement ont un très grand rôle dans la construction d'un ado, d'un enfant transgenre, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui pour en parler.
Exactement. Et donc autour de la table, on vous laisse vous présenter avec pronom et une phrase pour vous présenter.
Alors bah, moi c'est Marina, c'est elle mon pronom et je suis la maman de Charlie.
Et du coup moi c'est Charlie, j'ai 16 ans et du coup moi c'est il. Voilà.
Moi c'est Ellie, j'ai 19 ans et mes pronoms c'est il.
Et moi c'est Camille Lamarie, je suis maman d'Ellie et c'est elle.
Parfait, je pense qu'on peut commencer.
Yes, droit dans le vif du sujet.
À quel moment vous avez compris que vous étiez transgenre ?
Tu veux commencer ?
Ouais, j'allais te poser la même question, comme tu veux.
Vas-y, commence.
Moi, c'était vraiment... Enfin, en fait, je pense que... Il y a quand même des indices, j'ai envie de dire, qui sont là des petits. Mais j'ai commencé vraiment à mettre un mot dessus seulement l'année dernière. Et d'abord, je fais un coming out gender fluide. En fait, je savais vers l'adolescence que j'étais pas une femme. Ça, je savais, c'était sûr. Mais je savais pas vraiment ce que j'étais non plus. Enfin, c'était pas clair. Et du coup, j'étais quand même pas mal en recherche et tout ça. Et j'ai mis le mot, du coup, trans l'année dernière.
Ok. Donc quand tu étais jeune, de tes 0 à, j'allais dire, de ta naissance à tes 10 ans, cette époque-là, elle n'a pas été un peu révélatrice pour toi ? Tu t'es pas posé des questions à cette...
Si, bah je... Enfin, en fait, c'était des petits trucs... genre par exemple, quand je regardais les autres petits garçons, je disais « Mais pourquoi moi j'ai pas de zizi ? C'est nul, ça doit être trop bien de faire pipi debout, et moi j'aimerais bien.
» Okay.
Et c'est des trucs comme ça, mais c'était pas vraiment... Enfin, quand j'étais petit, je voulais... quand je m'imaginais plus grand, je me voyais comme un homme, quoi, avec de la barbe et tout. Mais je pensais que ça allait se faire comme ça.
Ok.
Et que c'était
du jour au lendemain. Qui...
Ouais, voilà.
Okay. C'était évident pour toi, en fait.
Ouais, mais pourtant, c'était pas quelque chose. Enfin, c'était pas quelque chose qui. Enfin, je me posais pas de questions là-dessus. Juste, ça allait venir, quoi.
Ok.
Ok. Et du coup, c'est à moi. Alors, moi, pareil, j'ai mis un mot dessus l'année dernière. Même si on en avait déjà beaucoup parlé avant. Mais vraiment, le fait d'affirmer le fait que j'étais transgenre, ça s'est fait l'année dernière.
Oui.
Mais avant ça, j'en parlais déjà beaucoup. J'avais demandé à des amis de m'appeler avec un autre prénom, etc. Mais je ne savais pas qui j'étais au final. Donc pareil, j'ai fait un coming out gender fluid.
Oui, il y a eu beaucoup d'explorations.
Il y a eu beaucoup d'explorations bisexuelles.
Beaucoup de coming out.
Pansexuelles, homosexuelles, enfin voilà. Fin... Et parce qu'en fait, au final, je me cherchais et je savais pas qui j'étais. Mais après, le fait de se sentir différent et pas comme tout le monde, c'est vraiment venu très, 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 très tôt, c'est-à-dire CP, où j'ai vraiment commencé à me dire que bah, j'étais différent, ou même j'avais des remarques, ouais, t'es un garçon manqué, des remarques des professeurs aussi. Donc, il faut que tu sois plus douce, comme une fille. Et ouais. Bah en fait, non, parce que j'étais pas une fille, mais je le comprenais pas. Et j'ai vraiment commencé à me poser des questions sur mon genre à 13 ans. Voilà.
Okay.
Ok.
Et du coup, pour les mamans, est-ce que en grandissant, vous aviez peut-être des indices? Est-ce que vous aviez remarqué des choses qui peut-être ont du sens aujourd'hui, mais à l'époque.
Je sais pas. Ben, moi, personnellement, oui, il y a deux lectures. Il y a la lecture à l'aveugle, et puis après, il y a la lecture quand on est éclairé, quand la transidentité est verbalisée et elle est posée sur la table. Et là, on a deux lectures différentes. Moi, j'ai toujours élevé un enfant qui était atypique, mais qui, pour moi, était un enfant à sa bonne place. Un enfant, ça bouge, ça joue. Je trouvais ça logique, il préfère jouer au foot avec les garçons qu'être assis à parler des chaussures. Donc pour moi, il était au bon endroit en fait. Vouloir des vêtements où on est à l'aise pour jouer, ça me semblait normal. Mais j'ai bien vu, dès effectivement l'entrée en CP, que ça posait un problème aux autres. Pas à Charlie, aux autres. Okay. Et j'ai même dû intervenir pendant les années de primaire. On a retrouvé il n'y a pas longtemps le carnet de correspondance où j'ai demandé un entretien en marquant bien. Il y a on remet en question le genre de mon enfant.
L'identité de genre.
L'identité de genre. Et j'ai vraiment marqué ce mot-là.
Wow.
L'identité de genre de mon enfant, ça me pose problème. Donc j'avais été en entretien en disant, voilà, pour moi, mon enfant, il a bonne place, enfin, c'est des bons comportements, mais il n'y a pas eu de résonance de l'autre côté, à part l'asseoir à côté des filles, pour qu'il arrive à s'intégrer avec les filles, lui demander effectivement d'être plus douce, voilà.
Et c'est les profs qui demandaient ça?
Ouais.
Oui.
Oui, oui. Après, mais les enfants entre eux, oui, c'est est-ce que tu fais pipi debout? Donc, le genre, l'identité de genre est très présente déjà à partir de la maternelle pour les enfants en primaire et ça s'accentue au fur et à mesure. Après, il y a eu plein de coming out à partir de l'entrée au collège. Donc le premier, ça a été bisexuel. Puis on a eu le droit à du non-binaire, du gender fluide. Enfin, pendant 2 ans, on a senti vraiment une espèce de... où nous, on est un peu agacés, on se dit... Il fait exprès, il veut se faire remarquer. Enfin, on n'arrive pas bien à comprendre qu'en fait, ça relève d'un mal-être, en fait. Et puis, vu que c'est l'adolescence qui change beaucoup, on se dit, ils essayent de se faire remarquer, ils nous poussent dans nos retranchements. Et Charlie, le questionnement de genre a commencé à 13 ans. Là, à 13 ans, on a posé le mot de l'identité de genre. Après, son exploration, voilà, elle a été... durant 2 ans, jusqu'à ce que l'année dernière, officiellement, disent, voilà, j'ai plus de questions, en fait. J'ai plus de questions, j'ai même pas besoin d'aller voir des gens, en fait, maintenant. J'ai toutes mes certitudes.
Okay.
Voilà.
Ouais. Pour Ellie, en fait, moi, je trouve que c'est venu un peu tard et que je suis passée un peu à côté, même si, évidemment, il y avait des signes dans le style vestimentaire, des choses comme ça, mais en fait, j'ai pas... ce que je sens, c'est que j'ai pas compris en fait sa souffrance quand il était petit, quoi. Et il y a eu des moments, il y a eu du harcèlement aussi au collège. Mais bon, voilà, je mettais pas tellement ça sur ce compte-là, quoi. Et bon, c'est là, je pense, avec tes études aussi, le fait de, comme tu fais les cours Florent, ouais, de pouvoir être vraiment toi-même, ça a libéré des choses, oui, ça a libéré la, ouais, parole. Et c'est vraiment à Noël de l'année, enfin du coup, ça fait un peu plus d'un an, où tu m'as demandé un binder. Et là, bon, j'ai commencé à comprendre des choses, quoi. Mais je voyais aussi que c'était compliqué pour moi. Donc, bah, ouais, Ellie a pris le temps, en fait, pour amener les choses assez tranquillement, je trouve.
Un binder, on le rappelle, c'est pour beaucoup de personnes transgenres qui sont... Enfin, tu veux l'expliquer mieux que moi?
Oui, c'est pour aplatir, les personnes qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est un binder.
Pour aplatir la poitrine, en gros, pour ne pas avoir la poitrine compressive.
Mais c'est très bien expliqué, au final.
Merci beaucoup, Charlie. Je ne me sentais pas légitime de l'expliquer, mais comme quoi.
Et donc, du coup, il y avait... Enfin, toi, tu remarques... Enfin, tu avais peut-être remarqué quelques petits éléments, mais jamais tu aurais associé ça à la transidentité. D'ailleurs, est-ce que tu savais ce que c'était, la transidentité?
Oui, comme ça, mais bon, pas... Pas comme aujourd'hui, en tout cas, ouais. Non, c'est vrai que j'avais pas notion que c'était à ce point-là des petits, quoi.
Ok.
Parce que c'était quel âge, le premier signe de transidentité, ou le premier signe, ou de mal-être, en tout cas, qui se
produisait ? Pour moi, c'était... Moi, je me suis rendu compte plus au collège.
Ouais, au collège.
Et de ce que dit, de ce que raconte Ellie, la primaire, ça a été très compliqué.
Mais j'ai commencé au collège à vouloir à m'habiller au rayon des mecs, quoi. Enfin, les sous-vêtements, les vêtements, enfin tout, j'allais plus m'habiller chez les filles, quoi.
Et t'avais des remarques comme Charlie plutôt du corps professoral ou des autres personnes de l'école ou pas du tout?
Professoral, non, mais les élèves, ouais, qui se demandaient, enfin, il y a toujours des questions qui ont pas trop lieu d'être, quoi, mais c'est de la curiosité, du coup, en fait, moi, je savais pas. Comme j'ai dit, je mettais pas de mots dessus, juste j'avais envie de mettre des vêtements de garçon et ça s'arrêtait là, mais je savais pas trop ce que ça voulait dire et je m'en fichais, juste voilà, je m'habillais comme j'avais envie de m'habiller. Et du coup, il y avait des questions qui m'ont fait me dire que, enfin, qui m'ont fait réaliser que peut-être c'était pas hyper anodin de mettre des vêtements de garçon alors que je suis pas née garçon, que ça faisait poser question à l'extérieur, quoi. Mais du coup, ouais, c'était des remarques comme ça à l'école, mais oui, t'es un garçon manqué, on l'a dit
Et redit,
ouais, voilà.
Et tous les deux, du coup, vous êtes passés par plusieurs coming out, comme vous disiez, donc clairement il y a un gros travail de construction, de recherche d'identité derrière tout ça. Est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de votre premier coming out, qui était du coup le coming out
bisexuel
et gender fluid, c'est ça?
D'abord, moi, j'ai fait un coming out lesbien au collège.
Ok.
En sixième. Non. Bah, je sais pas, je t'en avais parlé en sixième, mais c'était autour d'une discussion, quoi, qu'il y avait une fille qui me plaisait au collège et c'était pas. Mais après, je lui ai dit que. Enfin, je suis passée par plusieurs coming out, mais du coup. Autant orientation sexuelle que genre.
Ok. Et toi, Camilla Marie, avec ce coming out, tu l'as bien reçu? Enfin, tu as
oui.
Dès le premier. Ok.
Ouais, ouais. Moi, c'est vraiment quand t'as eu une copine, quoi. Là, c'était concret. Enfin, voilà. Mais ça me posait pas de problème.
Ok. Et donc tout ce cheminement du premier coming out au coming out trans, est-ce que vous pouvez nous le décrire un peu du côté tant de votre oui. perspective que celle des mamans?
Tu veux que je commence?
Comme tu veux, vas-y.
Alors moi, je savais pas vraiment ce qui m'arrivait. Je savais juste que y avait une fille qui me plaisait, donc pareil, en sixième. Et donc du coup, c'est à ce moment-là où j'ai fait un coming out bisexuel.
Ok.
Coming out qui s'est... qui s'est passé, mais... Enfin, c'était vraiment... maman, je crois.
Faut mettre le contexte aussi.
Ouais, voilà. je sortais de la douche, j'étais en train de mettre la table.
Je découpais mes courgettes.
Je m'assois, je lui dis « Maman ». Elle me fait « Oui ». Je lui fais « Je crois que je suis bisexuelle ».
elle a fait. Non, elle m'a dit.
Je t'ai dit, écoute, galoche.
Galoche les deux.
Fais ta propre expérience.
Et ensuite, tu reviens me voir et on en reparlera. Mais en tout cas, sache que moi, j'ai aucun problème avec ça et voilà. Que dans tous les cas, ici, bah, en gros, c'est safe. Maintenant, va mettre le sel, il n'est pas sur la table. Voilà.
Aide-moi.
Ouais, ça me paraissait de se mettre déjà dans une case dès 11 ans, alors qu'on est dans les prémices de sa recherche personnelle. Mmh. Du coup, ça me paraissait incongru presque comme conversation. Je lui dis, fais tes expériences, tu verras. Et puis, plus tard, quand tu poseras le mot un peu plus âgé, ça sera OK. Voilà. Bon, je pensais que c'était le premier, mais... Enfin, j'ai pas su sur le moment que c'était le premier, mais pas le dernier.
Premier d'une longue série.
Oui. Voilà, c'est ça.
Ouais. Et du coup, voilà, ça c'était le premier. Tu veux parler de ton premier coming out ou...
Ouais, mais je m'en rappelle plus trop, en fait.
Il y en a eu tellement.
Ouais, en fait, j'ai pas vraiment dit les choses. L'année dernière, j'ai eu une copine, puis après j'ai eu un copain, et... Enfin, je sais pas, c'était... Pour l'orientation sexuelle, en tout cas, ça a été assez... j'ai pas vraiment eu à dire, j'ai l'impression.
Ouais, Charlie, plus pareil. L'orientation...
Sexuelle. Au final, après, j'ai ramené une fille à la maison. Elle a dit OK.
Oui, et là, ça m'a vachement éclairée. C'est-à-dire que j'avais pas de projection sur mon enfant, mais de temps en temps, parce qu'il fallait reconnaître qu'il était relativement atypique, de temps en temps, je me disais... J'arrivais pas à l'imaginer avec un garçon. Mais pareil, je pensais pas à d'autres possibilités. Juste, je me disais, waouh, le garçon, il a intérêt à être vachement gentil, hyper coulant. Et par contre, la première fois, il nous a ramené une fille. Là, je me suis dit, ah ben voilà, c'est ça. Mmh. C'est juste que j'avais pas compris que. Voilà, j'avais pas capté que c'était ça. Et là, d'un seul coup, c'était beaucoup plus évident.
Quand tu dis ça, tu t'entends en quoi par ça?
Bah, le fait qu'il était attiré par les femmes, okay. Par le genre féminin.
Okay.
Et là, ça cadrait en fait avec. D'un seul coup, c'était fluide. Mmh.
Okay.
Autant avec les garçons, c'était. J'avais du mal à.
Je sortais avec beaucoup de garçons.
Oui, après en plus, il les maltraitait.
Non, je les maltraitais pas.
Mais voilà. Et après, quand il a posé la chose, quoi, le sujet, enfin, il l'a même pas posé. Il a ramené une première petite copine. Je savais qu'il y aurait une deuxième petite copine, une troisième petite copine. C'était comme évident, quoi. Ok, ça c'est posé. De ce côté-là, on sait. Après, on savait que ça continuait. Moi, j'ai posé le terme lesbienne, et lui, jamais.
Okay. Moi, j'ai toujours dit, j'aime les filles. Et en fait, ça m'énervait quand elle disait lesbienne, mais je ne comprenais pas du tout pourquoi.
Ouais.
Juste, c'était pas moi.
Waouh, ok.
Après, tu t'es...
Mais je savais que j'aimais les filles.
Ouais.
Donc, en fait, je comprenais encore moins ce qui m'arrivait au final.
C'est l'aspect genre que t'avais pas pris en compte.
Ouais,
du coup,
c'est ça.
En fait, je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'orientation sexuelle. Et on parle très rarement, enfin maintenant de plus en plus, mais de genre, en fait.
Ouais. Et c'est bien distinguer les deux. Ça n'a rien à voir. Mmh. Et par exemple, il a moins d'attirance pour à l'époque, et moins d'attirance pour les lesbiennes. Et c'était toujours celles qui l'intéressaient, c'était toujours des femmes hétéros. Okay. Voilà.
Donc,
j'ai toujours réussi quand même.
C'était encore une piste, ça. C'était encore un signe, en fait.
Ok. Et du coup, est-ce que vous voulez nous parler du fameux coming out trans, j'ai envie de dire? Est-ce que le moment, est-ce que vous vous souvenez le moment où les mots ont été posés, je suis en fait transgenre?
Élie m'a écrit une lettre que tu m'as donnée comme ça, un peu entre l'entrée et le fromage.
Tu l'as glissé comme ça, c'est même pas par là. Enfin, c'était pas par une voix, c'était tu l'as donnée comme ça physiquement.
Ouais. Franchement, je m'en rappelle même plus.
Ah, oui, c'est simple.
Ça t'a marqué, mais ouais.
Voilà, et donc j'ai lu ça toute seule et oui, j'ai compris beaucoup de choses en fait. Mais il y avait pas vraiment le mot trans encore.
Ouais, non, c'est ça, j'ai pas...
En fait, Élie a exprimé surtout qu'il se sentait garçon, quoi. Bon, moi, je suis tombée quand même un peu de haut, quoi.
Comment t'as réagi? Tu te souviens de l'émotion que t'avais ou...
Ouais, ça m'a quand même... je sais pas, ça m'a chamboulée, en fait. Je me suis dit, waouh, c'est quand même un sacré truc. Après, enfin voilà, tu me demandais aussi d'être présente. Donc ça, je trouve ça chouette. Enfin voilà, de demander de l'accompagner. Quoi. Mmh. Donc voilà, je me suis sentie un peu cette comme une mission, quoi. De... Mais que j'ai accepté. Voilà. Après, bon, ça fait un peu plus d'un an. Ce que je disais, ça chemine, quoi.
Et sur le moment même, t'as pas remis en question ça, enfin, ce qu'il disait dans la lettre en disant non, mais c'est une lubie, c'est il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait?
Ah non, pas du tout. Non, il y avait les mots. Enfin, c'était très clair, quoi.
Pas... Et est-ce que vous avez déjà eu cette relation de confiance entre vous deux auparavant? Parce que j'imagine que justement, tu n'as pas remis en question ce qu'il disait de par le fait que vous avez une relation assez fusionnelle, de confiance avant.
Oui, donc.
On communique bien. Et ouais. Du coup, c'est vrai que bon, le fait même que ça soit par écrit, ça m'a fait un peu bizarre. Okay. Mais bon, c'était bien, je pense. Enfin, avec le recul, je me dis... c'était, voilà, ça m'a permis, moi, de gérer un peu, justement, les émotions. Et puis qu'on puisse en parler après. Quoi.
Oui, c'est ça. Comme ça, moi, j'écris, je gère mon truc de mon côté. Mmh. Toi, tu lis, tu gères ton truc de ton côté. Et après,
on a pu se rencontrer. Ensemble, ouais.
Et toi, Ellie, t'avais réfléchi à quelle façon l'annoncer ou pour toi, c'était évident d'écrire quelque chose?
Non.
Tu dis que tu t'en souviens même pas de ton coming out?
Bah, en fait, je me rappelle le moment où j'ai écrit.
Okay.
Je me rappelle très bien. Mais j'avoue que je me rappelle plus trop de l'avoir donné, comment on
a parlé. T'as fait un blackout sur le fond.
C'est un peu ça.
En fait, tu poses le mot au bon endroit, hein, ouais. Quand tu dis un blackout. C'est-à-dire que pour Charlie, il y a pas mal de moments de sa vie où il y a un blackout, où en fait, émotionnellement, c'est tellement trop chargé. Mmh. Je pense que le cerveau, il doit préserver.
Je m'en souviens même.
Il se protège, quoi.
Ouais, des fois, ma mère, elle me raconte des anecdotes, je fais « Ah bon ?»
Mais toujours par rapport à la transidentité.
Oui.
Pas par rapport à d'autres sujets, c'est vraiment ce sujet-là.
Oui, mais des trucs de l'année dernière même, où je ne m'en souviens pas du tout.
Wow. Ouais, c'est ça, oui, mais c'était l'année dernière.
Voilà.
Oui, parce qu'en vrai, c'est un grand moment quand même dans votre vie. C'est vrai,
mais beaucoup de mal à me souvenir de mon coming out transgenre, par contre.
Ouais,
j'ai énormément de mal à m'en souvenir. C'est maman qui me l'a raconté il y a deux jours.
C'est la première fois que j'entends ça.
Mais ça prouve à quel point c'est un poids sur une personne seule qui doit affronter, parce qu'on ne sait jamais la réaction du parent. Est-ce que je vais être acceptée maintenant? Comment je vais vivre ma vie? Qui va me soutenir? Enfin, je pense que c'est tellement un trop plein d'émotions que c'est courageux de jeter la bouteille à la mer et voir.
Très courageux.
C'est hyper courageux. Enfin, ça, on n'en parle pas non plus du courage que ça demande. Et du coup, toi, Charlie, tu te souviens pas?
Je m'en souviens un peu, mais je pense que c'est plutôt maman qui devrait raconter, parce que c'est plutôt par rapport à toi.
On n'a peut-être pas le même coming out. Tu parles de celui à 13 ans?
Moi, je te parle de celui après le fameux appel que t'as passé.
Voilà. Mais en fait, donc comme j'ai dit, Charlie a commencé son exploration à 11 ans. À 13 ans, il était extrêmement difficile. C'est-à-dire qu'on a toujours eu une relation très fusionnelle où il y a de la communication à la maison. Et justement, je comprenais pas pourquoi il y avait une telle forme de violence et de colère en lui. Et c'était lié, bien évidemment, à du harcèlement scolaire, une hostilité ambiante à l'extérieur. Donc, il fallait bien qu'il l'exprime. Et aussi, je pense que moi, j'ai ressenti qu'il avait de la colère envers lui-même. Il faut s'accepter, il faut faire un deuil de soi-même quand on sent que la transidentité en fait pointe son nez. C'est pas chouette. Il y en a aucun qui soit content de se rendre compte.
Youpi,
super.
Content, c'est pas.
Voilà. Et donc je pense qu'il y avait il y avait toute cette colère qui était liée à l'acceptation de soi. Et même si on avait de super relations, il y a eu un moment donné où vraiment, pour la première fois de ma vie, je l'ai envoyé chez les grands-parents quelques jours pour émotionnellement souffler. Et quand il est parti, le premier soir, la première chose que j'ai faite, c'est, je ne sais pas pourquoi, j'avais jamais pensé auparavant, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé SOS Homophobie. J'ai passé 2 heures en larmes au téléphone avec un monsieur charmant qui a eu les bons mots. Et où moi, là, j'ai osé dire quelque chose que j'ai intériorisé. Je lui ai dit, je crois que mon enfant a des questionnements de genre. Ça me fait mal et je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne suis pas transphobe et je ne comprends pas là ce qui se passe en moi. Quoi. Cette, euh, cette peur, cette tristesse. Et en fait, d'avoir pu parler avec lui, ça m'a permis de déjà me déculpabiliser, d'être dans, de me sentir triste, paniquée. Ça m'a permis de me déculpabiliser, de me dire « Ok, t'as le droit d'être une maman accompagnante, une maman bienveillante, mais t'as aussi le droit de vivre ça difficilement, comme lui il le vit difficilement, et d'avoir toi aussi un travail, un cheminement à faire pour l'accepter. » C'est pas pour autant que t'es une moins bonne mère, mais c'est vrai que j'ai pris une claque quand même sur mon ouverture d'esprit. Je me pensais un peu plus ouverte d'esprit. Mais d'un seul coup, ça touche... on n'est pas éclairé sur le sujet, on ne connaît pas le sujet. Donc on n'en connaît que des bribes qu'on a entendues à droite à gauche. Mmh. Donc on est plein d'idées reçues très mauvaises en fait. Donc tout de suite on pense au corps de notre enfant, mais notre enfant l'a mis au monde, c'est vraiment un espèce de truc. Donc on pense mutilation au lieu de penser reconstruction. C'est pas anodin la différence de ces deux mots. Il y a plein de choses comme ça qui viennent se mêler. Et voilà, j'ai raccroché avec ce monsieur, moi j'étais beaucoup mieux. Et le lendemain, quand il est rentré, je...
C'est pas le jour où je suis rentrée avec les cheveux courts, je venais juste de me les faire.
Non, du tout, c'est après.
Ok.
Et en fait, quand il est rentré, bien évidemment, j'ai eu une conversation avec lui où je lui ai tendu des petites perches. Et bizarrement, la première perche que j'ai tendue, il s'est jeté dessus, quoi. Et là, le mot, il était posé. Oui, maman, j'ai des questions sur mon identité de genre. Donc après, c'était, j'ai des questions sur mon identité de genre. Ça, c'était à 13 ans. Voilà, l'année dernière, à 15 ans, c'est, j'ai plus de questions, j'ai plus de questionnements, je suis transgenre. Mais du coup, voilà, moi, il y a eu des étapes d'évolution. Aller au supermarché, acheter un caleçon. Ça a été, par exemple, un truc super difficile pour moi. C'est très bizarre, des fois, on s'attache à une toute petite chose, à un petit détail. Ça, j'ai fondu en larmes, caché entre deux rayons, en disant, papa, je vais pas y arriver, je crois que là, il veut que j'achète un caleçon. Et j'ai bugué dessus. Pourquoi? Je sais pas. Demain, il aura de la barbe, il se rasera. Et ça, par contre, je m'en fiche complètement. Donc... ça a fait des résonances chez nous qu'on peut pas parfois expliquer. On met du temps à comprendre pourquoi là c'est plus difficile à ce moment-là qu'à un autre, quoi.
Et du coup, c'est à ce moment-là qu'on a posé du coup ce terme-là de questionnement de genre. Et le moment où on a vraiment, enfin où j'ai vraiment posé le terme transgenre, on a essayé de reconstituer un peu hier. Et normalement, si on reconstitue bien, ça s'est passé un peu comme en fait. Je sais pas si je t'en avais déjà parlé un peu avant, mais en gros, c'est mon ex-copine, du coup, avec qui on avait pris mes menstruations et tout, et qui m'avait acheté un binder. Mmh. Et je suis revenue tout fière avec mon binder à la maison, j'ai fait « Regarde maman ce qu'elle m'a acheté ».
Ouais, sans nous...
Et en fait,
voilà.
Et ça s'est passé comme ça. Et en fait, moi, je savais tellement que c'était safe chez moi, qu'en fait, je suis arrivée tout content avec mon binder, avec une vidéo de moi qui le porte en disant « Regarde comment c'est trop bien
okay, !» Wow. Ça a été ça le moment officiel. Et la raison, c'est l'achat de, par sa petite copine de son binder. Mais où toi, là, on s'est dit « Voilà ».
Toi, tu savais même pas ce que c'était un binder.
Si, parce qu'en deux ans, j'avais eu le temps de m'éduquer quand même. En deux ans, j'avais eu le temps de m'éduquer, voilà, de passer par mes propres étapes, penser que j'allais devoir faire le deuil de mon enfant, puis me rendre compte que j'avais pas forcément besoin, qu'en fait, mon enfant, ça serait le même. Voilà, donc j'avais eu le temps de m'éduquer sur la question. Après, ça n'empêche que quand votre enfant il rentre avec un binder à la maison, vous vous inquiétez parce que vous savez qu'il y a certaines préconisations à avoir.
Surtout que du coup, comme elle s'est renseignée, elle connaît les risques du binder.
Plus au courant que
ouais,
toi.
Ouais, voilà, donc vraiment, tu as eu les
des
règles.
Fois, elle m'apprend des choses, c'est fou.
Trop bien.
Et du coup, tu arrives par rapport à cette histoire-là, est-ce que toi, tu as vécu la même chose avec Ellie ou...
Oui, je me reconnais vraiment. Ouais. Et donc, peut-être, moi, c'est plus récent. Donc, du coup, je suis encore... je vois hier, j'étais franchement pleine de tristesse. Quoi. C'est comme si ça remonte à chaque fois. Voilà. Et mais bon, c'est vrai que c'était le binder vraiment pour moi. À ce moment-là, j'ai compris. Et c'est vrai que quand tu parles de... Enfin, moi, par rapport à la poitrine, c'était compliqué, quoi. Je voyais tout de suite... D'ailleurs, je lui ai demandé à ce moment-là, mais est-ce que...
Mais c'est la première question que tu m'as posée.
En fait, quand il m'a parlé de binder, voilà, moi, tout de suite, je voyais l'opération, quoi. Mm. Okay. Et ça a été très compliqué pour moi. Et donc, voilà, le temps que... je pense que, voilà, tu t'as senti aussi que... Fallait peut-être pas tout dire d'un coup. Donc, voilà, c'est venu 6 mois après que, en fait... avec ce courrier. Donc j'avais eu le temps un peu de me préparer. Bon, après, moi, c'est vrai que peut-être je suis pas... Enfin, voilà, je m'informe pas beaucoup. Je vois que peut-être ça serait bien aussi d'être moins isolée avec ça.
Oui.
Parce que, ouais. Mais d'accepter, oui, que c'est pas facile hein, pour le parent. Et en même temps, de comprendre aussi que, bah, que c'est pas facile pour notre enfant, quoi.
C'est ça. C'est-à-dire que déjà, pour nous, c'est pas évident. Je me dis toujours, il faut multiplier par 10 la difficulté pour nous.
C'est ça.
Parce que eux...
Ah, pour les parents, plutôt non, que pour les enfants.
Ou multiplier par 10 la difficulté pour les enfants.
Pour les enfants, ok, oui.
Parce que, bah, en fait, principalement, c'est quand même les micro-agressions quotidiennes.
Oui, totalement. Oui.
Les coming-out incessants.
Ouais.
C'est fatigant, en fait, de faire des coming-out. Commencer un traitement, alors que ça fait, lui, ça fait plus de la moitié de sa vie qu'il fait du basket. Mmh. Bah, l'année prochaine, on aura des questions à se poser. Il va être... il n'aura pas les mêmes droits que n'importe quel...
Il ne pourra plus faire de compétition, par exemple.
Il ne pourra plus faire de match. Il pourra faire des entraînements, mais pas de match.
Okay.
Voilà. Et c'est ça, sans compter les incompréhensions des gens, la bêtise humaine et crasse. Enfin, eux, c'est ça au quotidien. Donc, pour nous, c'est difficile, mais il faut se rendre compte que pour des jeunes épaules qui sont en train de se construire, de tout le temps subir une agression quotidienne sur ce qu'ils sont, c'est destructeur en fait.
Et puis moi aussi j'arrive bien à me rendre compte que pour les parents aussi c'est destructeur parce que rien que les questions incessantes de la famille, des questions qui parfois on n'a pas envie d'y répondre. Enfin, quand je sais que moi ça me dérange quand on va demander à ma mère, ouais, et du coup il va faire quoi comme opération?
Okay, mais wow.
En fait, c'est mon enfant déjà, pour moi c'est compliqué. Pourquoi toi tu viens me poser cette question là? Enfin, j'ai pas forcément envie d'y répondre. Et puis je comprends aussi que ça peut être compliqué, ouais, de faire face aux mauvaises réactions des gens et puis de dire oui bah il est trans et puis c'est comme ça et puis si ça te va pas en fait tu pars quoi. Et nous on a eu de la chance parce qu'on a eu énormément de bonnes réactions, mais je sais qu'il y a des parents où des fois bah ils sont obligés de s'éloigner de certains amis, de certaines personnes de la famille, et en fait on l'oublie aussi trop souvent. Et je trouve que c'est important d'en parler, voilà.
Justement, parlant des membres de la famille et les commentaires que vous avez pu recevoir par rapport à ça, parlons un tout petit peu justement des papas, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Est-ce qu'il y a des papas? Déjà, s'il y a des papas, comment ils ont réagi par rapport à ça? Parce qu'on sait, nous en tout cas, sur Paint, avec notre expérience, à chaque fois que justement on veut parler de transidentité avec les parents, c'est plus... Et plutôt les mères et les femmes qui prennent réagissent. Un peu de l'avant et qui disent « moi je veux », alors que les pères sont un peu plus en retrait, pour des raisons... Il doit y avoir un tas de raisons quoi, derrière ça, mais voilà. Du coup, la question, c'est comment est-ce que les papas dans la famille ont réagi?
Je commence ou
vas-y,
je commence?
Vas-y.
Ok. Bah, du coup, mon père, il est très très pudique. Okay. Donc, c'est compliqué pour lui de parler, mais de parler de n'importe quel sujet, en fait. Mais à côté de ça, il est très très accompagnant. Il a toujours été présent. Il n'a jamais été contre. C'est lui avec ma mère qui ont choisi le prénom Charlie.
Ah, trop bien. Ah, c'est vous deux qui avez choisi le prénom pour. Ah, j'adore.
C'est moi qui et moi et eux qui voulaient. Enfin, moi, c'était surtout le fait de. Ils m'ont baptisé avec un prénom pour. Moi, c'est à eux de me rebaptiser.
Trop bien.
Et nous, pour nous, c'était.
Aussi important.
C'était important de pouvoir réparer, en fait.
Et donc, du coup, il a toujours été extrêmement présent. À côté de ça, parler pour un podcast, etc., c'est plus compliqué. Mais ouais, il a toujours été là. Et avant qu'on mette vraiment les mots « je suis transgenre », etc., c'était un non-sujet, en fait, on n'en parlait pas. Mais on n'en parlait pas surtout parce que lui-même, il disait à ma mère comme quoi il n'avait pas envie de m'influencer et de me donner son opinion et que son opinion m'influence sur moi qui j'étais et que je fasse en fonction de lui et de son avis.
Ouais, il avait très peur des mots.
Okay.
Et en fait,
d'un mot malheureux.
Voilà.
Qui l'oriente pas, enfin qui
ou qui me blesserait.
Voilà.
Okay.
Et donc c'est pour ça qu'en fait on n'en parlait pas. Mais à côté de ça, bah il y avait aucun problème. Et c'est plutôt avec maman que j'en parlais énormément, et maman qui allait dire à papa, bah du coup il s'est passé ça. C'est passé
ouais, je faisais le trait d'union du coup. Voilà. Je faisais le trait d'union.
Okay.
Mais à côté de ça, enfin j'ai fait mon coming out trans, ça a été il, ça a été Charlie. Ça a été mon fils, ça a été, je l'annonce à mes parents, et bah ils sont pas contents, on s'en fout.
Trop bien.
Enfin ouais. Voilà quoi. Donc à côté de ça, ouais, il est vraiment présent et là pour moi. Voilà.
Trop bien.
Donc j'ai énormément de chance.
Ça fait plaisir à entendre.
Bah du coup, moi, mes parents sont séparés.
Ok.
Donc je vois moins mon père, j'habite chez ma mère. Et mais du coup, bah, je me rappelle pas de mon coming out. Je me souviens pas comment je lui ai dit.
Mais en fait, quand moi j'ai reçu la lettre, bah, la première chose, voilà, on est séparés, mais ça m'a paru normal d'en parler à son père. Et on était au supermarché, on s'est mis à avoir une conversation hyper sérieuse, du coup, entre le rayon, c'était un peu bizarre. Mais voilà, on s'est vraiment retrouvés aussi. Je me suis dit, c'est marrant parce que pourtant on communique pas beaucoup, mais là, sur ça, on s'est vraiment retrouvés. Et donc, je pense que c'est comme ça. Après, il était au courant et vous avez pu en parler.
Oui, bah en fait, dans la famille de mon père, il y a des personnes LGBT. Mmh. Du coup, ça aide à
être ouvert.
À recevoir la nouvelle, quoi.
La compréhension, oui.
Mmh. Ouais, et puis, il a une amie aussi qui a eu
oui, c'est vrai.
Tout un parcours avec son fils.
Ouais, donc il est assez au point sur les sujets. Enfin, il connaissait déjà pas mal et du coup, c'était... Enfin, bah en fait, je sais pas, ça s'est fait. Enfin,
donc du coup, il a bien pris la nouvelle en général, parce que ouais. Du coup, il avait déjà ce contact avec des personnes LGBT dans sa famille et dans son entourage. On fait une toute petite pause pour parler du sponsor de cette vidéo, qui est nul autre que Waterdrop.
Waterdrop, donc c'est un micro drink, donc ça se présente sous forme de petites capsules comme ça, qu'on met dans de l'eau, dans 600 ml d'eau, et en gros ça donne du goût à de l'eau, donc vous trouvez ça sous plusieurs formes, et c'est sans OGM, vegan, sans gluten.
C'est ça, rempli de vitamines, et le concept en fait que Waterdrop veut, c'est de boire plus, et boire plus de façon écolo, c'est-à-dire un peu ne pas passer par justement les bouteilles en plastique qu'on connaît, réduire la consommation de plastique et passer plutôt par les gourdes. D'ailleurs, il y en a beaucoup sur leur site web, donc vous pouvez aller voir leurs gourdes, tous leurs produits sur leur site web, il y a beaucoup de choix. Sinon, en ce moment, ils sont sur une campagne du coup, pas de sucre et pas de plastique. Donc, on va vous mettre une toute petite vidéo de leur campagne.
Et si ça vous intéresse, vous avez 10% de réduction avec le code PAINT10.
PAINT10.
Et qu'on vous met le lien dans la description pour que vous puissiez aller dessus.
Pour 10% de remise. On vous passe le petit clip. Et merci encore à Waterdrop de sponsoriser cet épisode.
Fini le plastique plein de sucre avec Waterdrop. Sans sucre, moins de plastique.
Et on retourne sur l'épisode. Surtout une question pour les mamans. Est-ce que au moment où on vous annonce la transidentité, est-ce que vous parce que je vois que tu étais un peu déconstruite sur le sujet du genre et tout ça, mais est-ce que vous vous sentez désarmée face à cette information? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez seule, exclue? Parce que à qui on se tourne finalement? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui est la prochaine étape? Qu'est-ce qui vous est passé par l'esprit? Est-ce que c'était quelque chose qui vous a fait peur?
Ben, alors moi personnellement, les questions de genre sont arrivées, il avait 13 ans. Donc là, il n'y a même pas d'ambiguïté. C'est-à-dire que je suis responsable de son devenir. Et là, en fait, c'est le flou artistique. C'est le flou artistique parce qu'en fait, on n'est pas éduqué sur la question. Non. J'aurais dû me tourner vers des médecins, par exemple, dès ce moment-là. Parce que je ne savais pas encore que la liste d'attente était très longue. Parce qu'on peut parler, hein, pour la transidentité, de ce qu'on appelle la voie officielle. Donc la voie officielle, ce sont les médecins autoproclamés... ayant la connaissance et le savoir sur la transidentité, et ils sont pluridisciplinaires. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la voie officielle pour tout ce qui est la transition du genre. Sauf que nous, parents, ça va être à la dernière minute, quand vraiment il n'y a plus de doute sur la question. Et là, il n'y a plus de doute, il y a peut-être même une urgence au niveau de la santé mentale, de l'équilibre de notre enfant. Et là, laconiquement, c'est 18 mois d'attente.
Pour avoir un rendez-vous ?
Oui.
Wow. Donc,
là, on rappelle.
Premier rendez-vous.
Un premier qui va simplement dire oui, tu es bien.
Ouais, ouais.
Ah non,
on tamponne
pas.
Et on dit tu es transgenre.
Non, même pas. Si. On ne sait pas. C'est-à-dire que on me dit dans 18 mois. OK. Donc 6 mois après, on re-rappelle, on re-renvoie des mails. Mais madame, ça sera dans 18 mois. Bien, mais mon enfant est dans une extrême souffrance. Ils le sont tous, madame. Ça sera dans 18 mois. Parce qu'ils n'ont pas, ils n'ont personne. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les outils. Donc de toute façon, on ne peut même pas leur jeter la pierre. Ils ne peuvent pas recevoir plus que ce qu'ils ont de créneau. Donc, à partant de là, déjà, vous savez que vous allez vous débrouiller tout seul avec votre enfant. La voix officielle vous dit qu'il ne faut pas aller dans le privé. Et puis vous vous méfiez de tout et tout le monde, c'est-à-dire que tout le monde a le savoir, mais personne ne sait véritablement. Et vous, vous êtes dans l'intimité de votre enfant, en fait. Et chaque, en plus, personne transgenre va avoir va rencontrer des difficultés, pas au même endroit. Il y en a, ça va être beaucoup plus social, d'autres dans l'intimité. Le mal-vivre ressenti, il va être différent pour chacun. Donc, ce que j'ai appris ces dernières années, c'est que je suis la mieux placée pour savoir quelles sont les difficultés de mon enfant, qu'est-ce qui le met le plus en souffrance et où se trouve l'urgence. Après, les moyens et les outils, on ne les a pas, on les cherche, on cherche par tous les réseaux possibles, par les autres mamans, par les autres personnes transgenres qui sont à un autre niveau de... Voilà, mais c'est le flou artistique pour nous. Et on essaye beaucoup de nous culpabiliser. Et on confond qu'accompagner son enfant ne veut pas dire qu'on est... je ne vais pas être top top là, mais... Oh, c'est trop chouette d'avoir un enfant transgenre, ah là là, ça égaye ma vie et je m'amuse. Non, aucun parent est comme ça, on n'est pas farfelu, on n'est pas des illuminés et des anarchistes. En vrai, on est plus paniqué et on a plus intérêt pour notre enfant que quiconque. Il ne faut pas croire qu'un parent accompagnant est un parent inconséquent et qui va faire avaler des cachets comme des bonbons à son enfant, aller demain avec un petit couteau, lui, hop, je te fais l'ablation. Non, on n'est pas ça, en fait. Mmh. Et il faudrait qu'on arrête de nous faire sentir pas bien quand on décide de croire notre enfant et de l'aider. Et juste nous aider, en fait.
Parce que toi, tu l'as ressenti, ça, le jugement?
Si t'es trop accompagnant, qu'est-ce qui te dit que ton enfant est trans?
Et s'il regrette, il t'en voudra?
Qu'est-ce qui te dit, toi, que ton enfant est trans?
C'est ce qu'on te dit, enfin, c'est...
Oui, mais comment et comment tu veux répondre à cette question-là? Qu'est-ce qui te dit, quoi,
toi? Et toi, ta réponse, en gros, c'est que c'est ton enfant, tu le crois, et s'il te dit quelque chose,
Après, tu peux rentrer dans l'intimité de ton enfant. Ouais. Moi, j'estime que j'ai pour mission aujourd'hui de faire en sorte que les difficultés que Charlie a rencontrées aujourd'hui, dans 10 ans, enfin, j'espère même l'année prochaine, d'autres enfants ne rencontrent pas le même lot de difficultés. Donc, quand on pose des questions qui sont dérangeantes, de toutes les façons, j'y réponds frontalement et naturellement, parce que...
Moi aussi.
Il n'y a que par là. Donc quand je dis, je ne sais pas, toi, qu'est-ce que tu fais quand ton enfant il se douche dans le noir? Parce que c'est ça, en fait, la réalité. C'est, on édulcore trop. On ne parle pas assez dans le détail de chacun la difficulté qu'ils rencontrent avec leur corps et avec la société. Et je pense qu'on devrait être plus cru et vraiment dire quelle est leur difficulté et leur mal-vivre. On ne va pas culpabiliser une maman de vouloir essayer de trouver la meilleure prothèse pour son enfant qui est né avec une malformation de bras. Mmh. On va pas lui dire, est-ce que tu es sûr vraiment qu'il en a besoin de... Voilà. Mmh. Et on va pas les remettre en question, on va pas faire douter de leurs compétences. Nous, si. Toujours, systématiquement, la véracité. Et finalement, je crois que la meilleure réaction, c'est celle du père de Charlie, qui a dit, c'est pas ma vie, c'est la sienne. Mmh. Si demain, il regrette d'avoir de la barbe, ça ne sera pas mon problème. Moi, ma vie, elle continuera. Mmh. Et faut que nous, en tant que parents, on se fasse plus confiance. Parce qu'en vrai, on est les seuls, vraiment, à savoir ce que vivent nos enfants. On est les mieux placés.
Ça, c'est un gros sujet par rapport à la culpabilité, parce qu'on soit aux États-Unis ou maintenant en France, de plus en plus, on veut jeter la pierre aux parents en disant que c'est des mauvais parents.
De croire aux enfants qui sont en train de s'inventer quelque chose.
Leurs enfants ne sont pas transgenres. Ça doit être psychologique. Amenez-les chez les
psychologues. Les parents manipulent.
Fautifs, c'est les parents pour beaucoup de personnes.
Est-ce que tu te sens un peu identifié dans ce discours
Est-ce que vous avez reçu des commentaires comme ça?
Alors... Moi, pas tellement. C'est déjà moi, mon débat intérieur. C'est vrai que forcément, tu te poses des questions sur est-ce que t'as raté un truc. C'est quand même... C'est là, quoi. Mm-hmm. J'arrive à, à m'auto-rassurer par rapport à ça. Moi, j'ai pas été trop confrontée, enfin, je suis pas très confrontée, c'est ce que je disais à Élie hier, justement, c'est qu'on est un peu dans notre bulle. Okay. Donc, je suis pas très confrontée à ça avec l'extérieur. Pour l'instant, il n'y a pas trop de cheminement non plus médical, etc. Par contre, j'ai eu vraiment un cadeau, en plus dans un contexte où Élie a fait l'annonce à mes parents. Alors bon, ils savaient déjà plus ou moins, enfin voilà, c'était assez compliqué. Et je crois quelques jours après, j'ai eu vraiment la chance de rencontrer un médecin qui a été d'une bienveillance, bon voilà, qui était très très ouverte. Je savais, hein, j'allais la voir pour ça. Qui s'est assis sur son bureau, qui m'a pris la main et qui m'a dit faut savoir que les parents de ces enfants-là sont juste extraordinaires, quoi. Et ça m'a fait un bien. Et puis la deuxième chose qu'elle m'a vraiment dite, c'est de savoir aussi que mon enfant était en grande souffrance. Et en fait, c'est comme si ça a un peu... parce que moi, depuis que j'avais reçu la lettre, j'étais quand même très auto-centrée en fait, sur moi et sur ce que ça me faisait à moi. Mmh. Et là, le fait d'entendre par quelqu'un, de dire « bah oui, mais en fait, il est en souffrance », j'ai senti à ce moment-là que ça pouvait apaiser un peu aussi nos relations, notre dialogue. Parce que jusque-là, je sentais que dès que je disais un truc, c'était mal pris. Enfin, ce que je comprends, hein. J'étais maladroite. Enfin, voilà. Et que là, c'est, voilà, le fait de aussi pouvoir me mettre à sa place, ça a fait qu'on pouvait se rencontrer sur un autre niveau de compréhension, quoi.
Voilà. Et par rapport... est-ce que vous aviez de la dysmorphie? Enfin, j'imagine, oui. Enfin, vous aviez des épisodes où vous ne vous sentiez pas à l'aise, ou comme tu disais, dans le noir, par exemple.
La dysphorie.
Est-ce que vous avez eu des épisodes, enfin, si ce n'est pas indiscret, mais vous avez eu des épisodes dysphoriques qui vous ont fait comprendre que vous étiez transgenre? Ou c'était quelque chose qui faisait partie de votre quotidien ou pas?
Tu veux commencer?
Comme tu veux.
Vas-y. Vas-y.
Vous êtes très polis tous les deux.
Vas-y. Moi, ça a commencé à être l'année dernière, où vraiment ma poitrine a commencé à me poser un gros problème. Et c'est pour ça que j'ai voulu acheter un binder, j'ai acheté du tape et tout. Enfin, c'est c'était compliqué, quoi. La douche, je me douche pas dans le noir, mais j'aime pas trop me doucher, quoi. Et c'est embêtant au quotidien parce qu'il faut se laver, quoi. surtout qu'on a un miroir pile en face de la douche, donc c'est un peu...
Si jamais, petite technique, tu fais couler l'eau chaude jusqu'à ce que le miroir soit plein de buée. Et là, normalement, ça passe.
Il se douche avec la lumière maintenant, mais par contre, j'ai une note d'eau assez salée.
C'est un sauna, en fait, chez vous. Maintenant, oui, c'est le sauna.
Oui, oui. Bon, ça va, parce qu'on a l'étendoir souvent entre la douche et le miroir. Du coup, ça va.
Ça passe.
Je ne vois plus le miroir. Non, mais c'est juste qu'on est en linge, quoi. C'est normal.
Ouais, la douche, c'est vrai qu'on nous le dit souvent. Il y a beaucoup de personnes transgenres qui nous disent que prendre une douche, tu vois, une personne qui n'est pas transgenre ne peut même pas comprendre, en fait, à quel point ça peut être une souffrance. Et c'est là qu'on voit que c'est pas une lubie et que c'est véridique et que vraiment c'est que vous souffrez réellement de ça et que c'est à prendre sérieusement, quoi.
C'est ça. Bah moi du coup, alors ça a été des épisodes. D'abord ça a été quand j'ai commencé à avoir ma puberté, j'ai eu mes règles, maman m'a dit oh t'es une femme, et j'ai fait ouais, et dans ma tête c'était non, pas du tout, ça me va pas vraiment. Ensuite, en fait, ça a été vraiment mon corps. Mais pas que mes parties génitales en soi, parce qu'il y avait beaucoup ma poitrine. Donc, c'était pour ça le binder, etc. Et ensuite, ça a été plutôt... ma corpulence, je me trouvais trop fin pour un garçon. Donc, c'est pour ça que ça fait un an que je suis inscrite à la salle de sport. Maintenant, ça me plaît énormément et j'y vais pas que par rapport à ça. Mais à la base, j'ai quand même commencé à y aller pour ça. Il y avait aussi des épisodes où j'avais extrêmement de mal à me doucher. Donc pareil, il fallait que je me force, quoi. Et des fois, je me lavais en sous-vêtements. Des fois, je me lavais dans le noir. Et à ce moment-là, tu dis, je suis un monstre, quoi.
C'est vraiment ce que t'as pensé ?
À ce moment-là, ouais.
Je suis un monstre.
Je suis un monstre. Et en fait, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'était vraiment mal. Maintenant, et je comprenais pas pourquoi, parce qu'en fait, on a toujours, à la maison, ça a été toujours, enfin, le corps, c'est notre corps, on doit l'accepter, on doit l'aimer, on doit le chérir.
Notre enveloppe, c'est notre.
Ouais, voilà, en fait.
Véhicule pour toute une vie.
Voilà, je me trimballais à poil chez moi avant, donc là, je me disais, il y a un problème. Il y a un truc qui va pas, quoi. Et en fait, c'est vraiment des périodes, il y a des périodes où, parce que moi, je suis pas du tout, à la base, pudique. Au niveau de mon corps, il y a des périodes où ma mère va rentrer dans la salle de bain, je vais lui hurler dessus. Et puis il y a des périodes où je vais me travailler dans la maison à poil et je vais faire, d'ailleurs, t'aurais pas vu ça ? T'aurais pas vu mon binder ? Voilà quoi. Ouais. Donc en fait, c'est vraiment des périodes.
Des phases, ouais.
Et ouais, voilà, il y a des moments où ça va et il y a des moments où ça va pas du tout. Et du coup, tu dis, bah, si ça va pas, c'est que forcément il y a un truc derrière parce que comme il y a des moments où ça va, pourquoi ? En fait, pourquoi ? Ouais. Juste.
Non, mais... Et en plus, tu te dis tout ce travail que vous êtes en train de faire, et en plus, après, il faut aller à l'école, il faut avoir une vie finalement de jeune, mais avec toutes ces questions que les autres n'auraient pas, c'est hyper compliqué à gérer. Parce qu'on en parle pas assez, mais dans les écoles, le taux de suicide est très élevé justement pour les personnes transgenres. Et il n'y a pas forcément toujours un accompagnement des parents. Et donc, ça, comment accompagner ces jeunes qui n'ont pas de soutien ?
Alors, oui, il n'y a pas souvent, il n'y a pas toujours l'accompagnement des parents, mais il n'y a pas aussi systématiquement l'accompagnement extérieur.
À l'école.
Moi, effectivement, je viens d'une famille où, en fait, l'orientation sexuelle ne pose pas de problème. Mais en revanche, j'étais absolument pas préparée au fait que, à partir du moment où les parents acceptent leur enfant, il n'y a pas de problème pour eux. Ben non, en fait. Parce qu'il n'y a pas que toi qui interagis avec ton enfant, il y a aussi le monde extérieur. Et donc, nous, à la maison, ben, c'était cool, c'était safe. Et à l'extérieur, ben, ça ne l'était pas. Donc, c'est vrai que Charlie est passé toute son... Heureusement, il a sauté une classe durant son cycle de collège. Donc, il n'a fait que 3 années. Mais ça a été les pires de sa vie. Derrière ça, bon, il m'a autorisé à pouvoir le dire aujourd'hui. Après ces 3 années subies au collège, il est rentré dans une décompensation. Donc, dans une dépression sévère et avec une surdose de médicaments volontaires pour que ça s'arrête, en fait. Parce qu'il y a la phobie scolaire qui s'était installée, voilà, toutes ces choses-là. Et complètement stone et divagant, arrivé aux urgences. Aujourd'hui, j'ai encore le rapport des urgences. Ce que Charlie, on n'était pas présent, a verbalisé. C'est j'ai des questionnements de genre, mais ce n'est pas ça qui me met en mal vivre, c'est le harcèlement que j'ai subi. Donc, en fait, on voit bien que finalement, il y a une partie de mal vivre par sa transidentité, par certains aspects de son corps, mais que principalement, la souffrance de nos enfants vient de l'extérieur. Et c'est vrai que au collège, il y a les enfants, il y a aussi les encadrants. Par son chemin, je me suis malheureusement rendu compte que même si l'Éducation nationale a mis de super supports à disposition des établissements, des supports contre l'homophobie, la transphobie, comment détecter les comportements homophobes, transphobes, les collèges et les lycées peuvent décider de ne pas avoir envie de les utiliser. Alors après, ils vont vous invoquer toute bonne raison. Nous, ça a été que ce n'est pas un sujet de collège, même si le support est...
Il n'y a pas de sexualité au collège.
Ouais, alors, on vous a dit ça ?
Oui. Par exemple, quand effectivement, vu qu'il n'a pas caché son orientation sexuelle au collège, on estimait qu'on a remis en question son identité sexuelle, parce que tu comprends, si tu étais quelqu'un d'LGBT, tu serais en souffrance.
On m'a convoqué en me disant, oui, du coup tu dis que t'es bisexuel à 11 ans. Je dis oui. Moi je vais te dire franchement, c'est un peu impossible que tu sois bisexuel parce que les personnes qui sont bisexuelles sont dans un mal vivre et toi tu as l'air d'aller très bien.
Ah oui. Alors, et en fait, vu qu'on n'est pas.
Et puis après il y a eu aussi le fait que tu faisais de la propagande LGBT.
Oui.
et depuis que j'étais là, il y avait de plus en plus d'LGBT dans le collège.
Oui. Voilà. Bizarrement, mais après, moi, quand je les reçois dans mon bureau, au bout de 2-3 fois, c'est bon.
Mmh. C'est bon, ils ne sont, plus LGBT. Et puis ensuite, ils venaient me voir et puis ils me disaient oh, ça m'a saoulé et tout. J'ai dû dire que j'étais hétéro, alors je sais que je ne suis pas.
En vrai, c'est grave. Enfin,
juste pour qu'il me foute la paix.
On l'a envoyé en voir la psy du collège, sans son autorisation à lui et sans la nôtre. On nous a forcé, oui, quand je dis forcer la main, c'est oui, parce qu'on vous fait culpabiliser encore, hein, vu que votre enfant a des questionnements de genre ou d'orientation sexuelle, il faut qu'il soit suivi. Donc, du coup, il faut qu'il soit suivi.
Alors qu'en plus de ça, à ce moment-là, j'étais déjà suivie à l'extérieur.
Non, mais du coup, non, il faut.
Et puis, ils ont aussi.
C'est parti d'eux, hein, que tu sois suivie à l'extérieur. C'est parti d'eux.
Oui, et puis, ils ont aussi remis en question, le fait de. Enfin, par rapport à mes parents, est-ce que c'est pas. Ça se passe bien à la maison? Est-ce que c'est de la. Fin...
Est-ce que c'est la famille?
Ils remettent en question toute ta vie, ça, en fait.
Ouais. Ouais. En fait, c'est ouais. Ça. C'est
ouais,
ça.
Elle l'a fait au papa, le coming out trans. A été fait au papa par téléphone sur des rumeurs et des oui-dire que dans les couloirs il se fait genrer il, mais je vais tirer tout ça au clair et je reviendrai vers vous. Moi j'ai eu le papa qui est tombé de sa chaise, hein, vraiment au sens littéral du terme.
En fait, ça lui posait pas de problème, mais c'était pas eux.
C'est pas de le faire.
En fait,
ils ont fait un coming out bien, un coming out lesbien et un coming out transgenre à mes parents. Donc à partir de ce moment-là,
oui, bah en fait,
tu parles à ta place, quoi.
Ouais, non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en réunion, parce que j'ai demandé une réunion quand même, à un moment donné. Et en fait, c'est. Bah, écoutez, puisque. Enfin, vous êtes ouvert. Je suis pas inconséquente, madame. Vous êtes ouvert d'esprit, vous n'avez pas de problème avec l'orientation de votre enfant. Et je lui ai dit, c'est là où vous avez. Tout faux, c'est là où je vois que vous n'avez rien compris. L'identité sexuelle de mon enfant n'a rien à voir avec une problématique d'identité de genre. Et en fait, c'est juste l'inconséquence absolue. Vous ne savez pas comment nous, on peut réagir. Je lui dis, moi, vous m'avez parlé de tout ça. Vous m'avez violentée parce qu'en vrai, je sais tout ça. Mais j'avais juste pas envie d'en parler avec vous. J'étais pas prête. Vous m'avez obligée de parler d'un sujet intime. À quelqu'un que je ne connais pas. Donc, et en fait, c'est tout ça, tous ces gens qui veulent vous apporter leur savoir, alors qu'ils sont méconnaissants du sujet, tous ces gens qui veulent, qui ont des injonctions de réponse qu'on n'a pas nous-mêmes, qu'on n'a pas forcément. Et c'est tout ça, en fait, qui crée le mal-vivre chez Charlie. Parce que lui, voilà, à l'hôpital, aux urgences, il a bien su dire, même dans le vague, voilà. Et nous, ça nous a aidés aussi, de voir écrit que notre enfant leur a dit voilà, j'ai pas de problème avec mon identité de genre, avec ma transidentité, j'ai un problème avec les autres, en fait, qui me harcèlent. Et ça, en tant que parent, on n'est pas préparé. On pense que tant que nous, on est bienveillants, le reste, ça va couler, en fait. Et c'est pas vrai.
Du coup, est-ce que vous avez une sorte d'inquiétude qui est constante par rapport à la transphobie que peuvent vivre vos enfants dans la vie de tous les jours ?
Ouais, moi, c'est vrai, c'est ce que je te disais hier. C'est vraiment l'extérieur qui renvoie ça tout le temps, en fait. Et c'est ce que tu vis, Élie, c'est que voilà, c'est un rappel constant. Et bon, après, je vois que voilà, peut-être les mentalités évoluent. On est quand même dans une période où ça bouge beaucoup. Donc j'espère, ouais, qu'il y aura plus de tolérance. Mais je sais que ça va être. Enfin voilà, c'est un parcours difficile, quoi.
Je pense aux parents qui. Ah pardon, tu voulais.
Ouais, en fait, j'aime bien l'état d'esprit de Camille Marie, mais je suis pas. Je suis quelqu'un de positive, mais pour le sujet, je suis moins positive, en fait. D'ailleurs, je crois que je vous avais écrit un jour un message en disant que j'en avais marre des médias qui parlent de transidentité, en dehors des médias LGBT, attention.
En dehors d'une autre, pas sur
voilà,
tout le monde.
J'adore les supports sur la transidentité chez Paint, mais je trouve que les médias extérieurs, en fait, créent de la transphobie. Et moi, du coup, j'ai extrêmement peur. Et malheureusement, en tant que parent, on est toujours un peu inquiet, mais sur la transidentité, du coup, sur la transphobie, pardon, j'ai beaucoup d'angoisse, et je pense que lui-même doit aussi les ressentir. Alors peut-être qu'il y en a viennent de moi, il y en a viennent de lui, de ce qu'il vit, mais oui, moi, j'ai tout le temps peur. Alors après, c'est mon rôle de parent, peut-être d'avoir tout le temps peur, ça serait autre chose.
Aussi un peu, je pense.
Oui, mais oui, forcément.
Mais je pense que c'est parce que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que souvent, ce sont des gens qui n'y connaissent rien sur le sujet, qui s'expriment au nom des personnes et qui posent un jugement et qui posent des critères qui n'ont rien à voir avec ça, ils ne l'ont pas vécu. Donc,
mais il y a autre chose aussi par rapport à ça, c'est les personnes qui sont transgenres ou autres et qui vont être dans l'extrémisme directement. Dès qu'il va y avoir un mot de travers d'une personne qui, au final, n'y connaît rien au sujet, et je suis désolée de le dire, hein, mais moi, ça m'agace, parce qu'au final, c'est ça aussi qui crée la transphobie. Mmh. Et on n'en parle pas assez. Moi, je sais que quand on va me poser une question, quand on va me dire « tu veux faire quelle opération ?», eh ben, je vais dire « tu vois, cette question-là, c'est une question, par exemple, je te le dis pour les prochaines fois, les personnes transgenres, c'est le genre de questions où on évite de les poser. » Et donc là, ils vont faire « ah non, mince, je suis désolée, pourquoi ?» Et en fait, c'est là où on se rend compte que c'était juste des personnes qui ne sont pas informées par le sujet et qu'on leur explique, ils vont faire « ah ok, d'accord, pas de souci, merci. » Et à côté de ça, je vais leur répondre à leurs questions parce qu'en fait, moi, j'en ai rien à faire de leur dire quelle opération je veux faire. Mais comme ça, ils savent. Et les personnes qui vont directement dire « ouais, ces questions-là, ça se pose pas, je sais pas quoi. » Et ben, au final, c'est ça qui crée la transphobie.
Et pour éduquer, on est obligé d'expliquer. Donc en fait, si on répond par la négative en face en disant « bah non, ça se dit pas, bah non, ça se demande pas.
Ouais. »
Ok, d'accord, mais la personne, elle repart aussi peu éclairée qu'elle est venue, quoi. Donc moi, c'est vrai que je me suis retrouvée à expliquer à mon informaticien, à rentrer vraiment dans le dur du sujet, à des questions super intimes. Mais en fait, je voyais qu'il connaissait pas le sujet et qu'il était intéressé et qu'il voulait comprendre. Je me dis, toutes les informations que je vais lui donner, ça servira parce que peut-être que demain, il croisera une personne transgenre, mais peut-être aussi une personne transphobe et qu'ils auront un débat là-dessus et qu'il l'éclairera un peu plus, en fait. Et on n'obtient rien par la violence, en fait, et l'extrémisme. Donc... On n'emmène nulle part dans notre cause si on l'oblige à venir à nous. Donc on peut que... des fois, c'est compliqué, on n'a pas envie de prendre sur soi, on n'a pas envie de pas d'énumérer alors les seins, alors le bas, alors la moustache. Mais on le fait, faut le faire autant qu'on peut. Peut-être pour nous, c'est plus facile en tant que parents, par contre, de parler du corps de notre enfant. Mais il faut le faire, quoi. Il faut en parler... juste en parler de façon éclairée, quoi, s'il vous plaît. TPMP, arrêtez de parler.
On voulait pas les citer, mais tu l'as fait pour nous. Mais justement, en parlant de ça, comme tu dis, déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans l'ignorance totale de la transidentité parce qu'ils n'ont pas du tout le contact avec. Mais le problème maintenant, c'est qu'on a des médias et on a des sources de personnes qui veulent parler de transidentité, mais pas dans la bienveillance.
Il y a tout le contexte américain avec toutes les... c'est aussi un contexte mondial. Évidemment. Qui fait que
culturellement, on n'est pas américain.
Je veux dire, les personnes transgenres sont en plus maintenant utilisées beaucoup comme bouc émissaire, mais ça c'est encore une autre...
C'est le mouvement entre guillemets anti-trans arrive en France,
c'est ça.
Et du coup les médias traditionnels aiment bien un peu surfer sur ce sujet parce qu'ils savent que ça fait du clic, ça fait parler et ça donne beaucoup de haine, et donc du coup on parle de transidentité de plus en plus, mais pas forcément bien.
Moi j'ai une petite question, je pense à... En fait, on a beaucoup de personnes trans très jeunes sur Paint qui nous écrivent en disant « je veux faire mon coming out à ma famille, je ne sais pas comment le faire, je me sens seule, je pense que mes parents vont me rejeter, qu'est-ce que je fais ?» Et ils ont 10, 12 ans, 13 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes aujourd'hui qui recherchent justement des réponses et qui n'ont pas de soutien des parents ?
Je commence ?
Ouais, vas-y.
Ok. Pour les jeunes qui n'ont pas du tout de soutien des parents, moi, je pense sincèrement que je suis pas à leur place parce que moi, j'ai eu énormément de soutien de la part de ma famille, mais que tant qu'on n'est pas sûr d'être dans un endroit safe... ne pas faire son coming out. On s'en rend pas compte, mais ça peut très mal se passer. Moi, je sais que je suis déjà allée dans des associations où il y avait des jeunes qui se sont retrouvés à la rue. Et au final, ça peut être aussi dangereux pour eux.
C'est ça.
Donc, vraiment, être dans un endroit safe, être sûr que ça va bien se passer. Et à ce moment-là, faire son coming out, mais avant... ne le faites pas vraiment. Donc voilà. Et après au niveau des parents, voilà, et au niveau à l'école, etc. Tant que c'est pas vraiment obligatoire et que voilà, c'est vraiment ça dans un cercle restreint parce que au final, même si on pense que ça va nous libérer, que tout le monde va nous appeler il ou enfin nous genre il ou elle ou ou elle, ou enfin voilà. Au final, il peut y avoir plus de mauvaises réactions qu'autre chose, et c'est ça vraiment qui nous détruit. Et du coup, voilà.
Oui, c'est ça, il ne faut pas se mettre en danger, quoi.
Mais, c'est ça.
Mais c'est dur de savoir si c'est un environnement safe ou pas. Mm-hmm. Mais bon, du coup, moi, j'ai eu de la chance, quoi. Donc, ouais. Je ne pourrais pas trop dire comment faire. Mais bon, après, si l'environnement est safe, du coup, après, ça dépend comment on a envie de le dire, mais du coup écrire une lettre par exemple,
ou ramener un binder à la maison et dire hey maman, regarde ce qu'on m'a acheté.
C'est ça. Et je pense qu'il y a plein de manières de faire son coming out, et que c'est pas obligatoire, et il n'y a pas d'âge pour le faire, et que c'est vraiment si c'est un besoin. Enfin, il faut le faire que si c'est vraiment nécessaire, et si on sent que ça peut être accepté. Quoi.
Et il n'y a pas de bon ou de mauvaise c'est façon ça. De le
ouais,
faire.
C'est sûr.
Et il n'y a pas de bon ou de mauvais moment aussi. Parce que je vois trop souvent des personnes qui me disent « Ouais, mais à quel moment je le fais ?» En fait, tu le fais quand tu le sens.
C'est ça. Quand tu mets la table et que ta mère coupe des courgettes.
Voilà, exactement.
On adore vos...
Mais ouais, voilà, c'est un peu ça. Enfin, tu le fais quand tu te sens prêt et quand tu te sens que pour toi c'est le moment, en fait, parce qu'en fait c'est faut pas que tu penses, quand tu sais que c'est un endroit safe, faut pas que tu penses aux réactions qu'on va avoir en face, parce que au final les réactions, ça sera, tu vas t'inventer des réactions qui au final ça sera jamais ce à quoi t'as pensé, et au final tu seras toujours déçu, donc faut juste que tu penses à toi et
c'est ça, faut juste s'écouter
et toi comment tu veux le dire, et ouais, et toi, qu'est-ce que tu veux dire au final ? Et les réactions autour, c'est les réactions autour. Et ça n'a aucun rapport avec toi. Il ne faut pas que tu te sentes mal de te dire j'ai eu une mauvaise réaction. Parce que au final, toute notre vie, on aura des mauvaises réactions comme des bonnes. Et ça ne va pas nous tuer. Je suis encore là.
Et vous vous sentez plus heureux depuis que vous avez fait votre coming out ? Vous vous sentez mieux dans votre peau, dans votre vie ?
Vas-y. Je sais pas si ça a vraiment changé quelque chose. Enfin, ça a changé quelque chose dans le sens où je peux être qui je suis, que les gens sont au courant, donc j'ai plus besoin de me cacher. Je sais pas si je suis plus heureux ou pas. Je pense que c'est
libérateur, en tout cas dans un premier temps peut-être.
Ouais.
Mais tu t'as pas encore questionné ton bonheur et
je sais pas, je pense que j'étais déjà heureux avant et que je suis toujours heureux, et je sais pas si c'est plus ou moins, mais que oui, en tout cas ça permet d'être qui on est, et que il y a moins de questions de pourquoi je fais ça, c'est ok, c'est parce que c'est,
ça amène des réponses, quoi.
Peut-être qu'aujourd'hui aussi tu t'en fiches un peu de ce que pensent les gens, quoi.
Peut-être
la chance.
Je sais pas si je m'en fiche, mais enfin, du coup, moi, je suis au cours Florent, comédie musicale.
Oui.
Et du coup,
c'est simple.
Je travaille. En fait, le truc, c'est que je travaille beaucoup autour du coup de la danse, du chant et tout ça. Et il y a quand même des profs dans leur mentalité qui sont c'est très genré, très binaire. Et par exemple, les échauffements vocaux où on me fait chanter avec les filles, c'est quand même, c'est compliqué, quoi. Enfin, en fait, je sais que, du coup, par rapport à ma voix, je vais chanter avec les filles, et ça, c'est pas un problème. C'est le fait que, par exemple, le prof...
Les filles ici et les garçons filles, là-bas.
Ouais, c'est ça.
Okay.
Ça me...
Au lieu de dire, ouais, je sais pas comment ça se fait.
Je sais pas, ils pourraient dire, tu vois, les voix aiguës ou les voix graves.
Ouais, ouais, ouais.
Et le fait qu'ils disent, bon, allez-y, les filles, et... C'est compliqué, quoi, alors que je lui en ai déjà parlé, et... surtout, dans la pédagogie, il y a une professeure qui est trans, et du coup... Enfin, je pense que c'est juste un manque d'éducation, mais ils devraient... Ouais. En fait, ils sont entourés, il y a des gens dans la promo, on est plusieurs, et ils devraient s'éduquer sur ces questions-là, parce qu'en fait, ça fait partie de leur quotidien. Mmh. Et il faut... Enfin, je pense que c'est juste le fait d'accepter que c'est plus pareil qu'avant, et que c'est plus OK d'arriver à un cours de chant et de dire les filles, les garçons, parce que c'est pas... C'est pas aussi binaire que ça, quoi.
Ça m'a fait la même chose au collège avec un prof de musique qui, pareil, mettait les filles d'un côté, les garçons de l'autre. Ce qui était très drôle parce qu'il y avait des garçons qui n'avaient pas encore mué et j'avais une voix plus grave qu'eux. Donc au final, voilà. Ouais. Et ouais, donc pareil. Et puis moi, ça me fait pareil aussi au basket parce que du coup, je joue dans une équipe féminine. Donc en fait, mais mon coach, il me dit, ouais, je dis les filles, mais en fait, ce serait un autre garçon que toi. Je dirais aussi les filles et c'est juste, en fait, y a plein de filles, donc je veux dire les filles. Et je vais pas dire les gars juste parce qu'il y a un mec et au final c'est aussi très féministe donc ça me va très très bien. mais ouais, du coup des fois ça fait du mal, mais des fois par contre il essaye de dire ouais les filles et Charlie. Et là tu dis oh c'est cool.
Ça, c'est
pas,
cool.
Oui, par contre t'es pas mal-genré ni quoi que ce soit, quoi. C'est juste
tout.
Dans en fait c'est l'habitude
groupe,
facile rapide les filles.
Ouais, voilà. C'est plus simple et du coup voilà.
Et du coup, pour la question pour les parents, donc on imagine que les parents nous écoutent et ne savent pas forcément comment accompagner leur enfant. Notamment, par exemple, aussi, on n'a pas dit, mais avec changer les pronoms, parce que c'est quand même toute une... Il faut s'adapter aussi à ça, changer les pronoms.
Une démarche,
quoi, qui n'est pas forcément évidente. Qu'est-ce que vous voudriez, pourriez conseiller à des parents qui ont des enfants qui leur font un coming out trans ?
Par exemple, moi et mon mari, on a eu deux façons différentes. C'est-à-dire que moi, je me suis levée un matin et je me suis dit, allez, comme si c'était un travail, quoi. Comme si c'était un travail, c'est que maintenant, c'est il. Et donc, le plus compliqué, ça va être le premier il. Et c'est le plus compliqué. On a l'impression d'être schizophrène, de faire semblant pour de faux. C'est vraiment cette impression-là. Et on est pudique. On a du mal à le dire, le il. Oui.
Et toi, ça t'a fait plaisir, du coup.
Moi,
on était dans une pièce de théâtre et on demandait quand est-ce que ça allait se finir. Bah, jamais.
Et donc, en fait, le premier il, ça a été le plus difficile. Et après, par contre, du coup, mon cerveau n'était jamais au repos pendant 15 jours. Et pendant 15 jours, c'était le il. J'arrivais pas avec mon fils, mais c'était le il. Et du coup, après, mon cerveau, c'est bon, au bout de 15 jours, il pouvait être reposé et c'était devenu pour lui une habitude. Le papa était du coup moins appliqué, donc c'était il, elle pendant plus longtemps. Et je lui dis, en fait, ça fatigue ton cerveau et ça nous fatigue nous aussi, donc il va falloir que tu te disciplines. Effectivement, il s'est discipliné une petite semaine et en fait, voilà. C'est là où on se dit, en fait, c'était tout bête, c'était juste une déconstruction, une déconstruction d'une habitude du cerveau. Et après, par contre, dans ma fille ou mon fils, il y a une espèce de résonance un peu plus émotionnelle. Donc, je disais mon enfant. Donc, j'ai réappris la notion de mon enfant et d'y mettre toute la place dedans. Et aujourd'hui, je dis mon fils avec une grande fierté.
Moi aussi, je suis très fière.
Et en fait, finalement, ce sont que des mots. C'est tout. Mon enfant, il reste le même. Il n'a pas changé. Par contre, je vois à quel point je suis sur le bon chemin. Parce qu'à quel point, de nouveau, je retrouve mon petit enfant qui était heureux, partant pour tout, d'humeur égale. Et plus on avance dans sa transidentité, c'est-à-dire plus... À l'école, c'est le bon genre, à la salle de sport, c'est le bon genre, au basket, c'est le bon genre, dans la famille élargie, c'est le bon genre. Et plus finalement, je retrouve un enfant qui est de nouveau ce qu'il était petit, quoi. Donc on se dit, go, en fait, c'est la clé de tout. Et puis changer même physiquement, c'est-à-dire que physiologiquement...
Le cerveau a une force de fou, quoi. Parce qu'en fait, depuis que j'ai fait mon coming out, j'ai de la barbe. Ça se voit pas, mais ça se voit un peu quand même. J'ai même ma voix. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a un an, ma voix elle était beaucoup plus aiguë.
C'est vrai.
Et je venais juste de faire mon coming out. Et là, ma voix elle est beaucoup plus grave. Je ne suis pas sous testostérone. J'ai carrément ma grand-mère, qu'on a vue il y a une semaine, qui m'a dit mais tu prends des. Et je fais de quoi, de la testostérone? Elle me fait oui. Et je fais non. Pourquoi? Elle me fait je sais pas, je vois des changements. Du coup, je me dis c'est bien, elle l'envisage, c'est cool, ça va passer un peu mieux quand ça va être le cas. Mais non, du coup, pas encore. Et en fait, au final, ça fait plaisir. Donc voilà.
Et du coup, le conseil pour les parents qui nous écoutent ou qui nous regardent?
Simplement se rappeler que c'est notre enfant et que ce qui compte, c'est qu'il soit épanoui, quoi, en fait, et que c'est l'amour qui compte, quoi, j'ai envie de dire. C'est sûr que ça demande, comme tu dis, beaucoup de déconstruction, en fait. Mais bon, je pense que si ça nous arrive, c'est qu'on est capable de le faire et d'accompagner. Et voilà, encore une fois, je pense qu'avec la confiance et l'amour, on peut avancer ensemble, quoi.
Voilà. C'est en tout
beau.
Cas,
c'est... Ben nous, on était ravis de faire cet épisode, surtout parce que c'est, on a beaucoup de questions et de parents justement qui nous écrivent par rapport à ça. On trouve ça magnifique.
Et on pourrait même faire un concept d'eux où on explique même le cheminement une fois que la personne, tu vois, comment on accompagne que... l'enfant, parce que ça, c'est encore un autre chapitre.
Là, on pourrait effectivement faire une petite saga quand même.
Tellement de chapitres
à faire.
Oui, il y a tellement de chapitres, on en parle pas.
Il y aurait plus de films que Harry Potter.
Mais c'est vrai, comment l'ALD, tout ça, comment on accompagne l'enfant, mais
c'est ça
pour un autre.
Ça, les...
Parce que c'est compliqué aussi, on a entendu.
Bon, ce sera pour un prochain podcast, peut-être, en tout cas, on l'espère. Pourquoi mais merci pas. Beaucoup à tous les quatre.
Ouais.
Merci de la confiance.
Merci
et merci aussi
à vous
aux mamans aussi, hein, parce que vous êtes formidables comme maman. Et, c'est,
et vous aidez
on
énormément.
On ressent vraiment l'amour que vous avez pour votre enfant. Et,
ouais,
et si seulement les.
On remercie pas les autres mamans qui ont un enfant, par exemple, qui est né handicapé. On leur dit pas. On trouve ça normal, nous aussi on aide notre enfant parce qu'on l'aime et que c'est normal, voilà, il a une particularité, c'est tout. Mais on a tous une particularité en fait.
Exactement.
Et finalement vous n'avez pas changé le fond, l'essence est là quoi. Finalement vous avez toujours été vous et c'est juste que maintenant vous trouvez dans votre genre.
C'est ça.
Ouais, c'est ça.
On espère que ça pourrait aider beaucoup de personnes qui nous écoutent et si seulement tous les parents pouvaient avoir votre vision et votre mentalité par rapport à ça.
Mais qu'ils n'hésitent pas surtout à se tourner vers des associations. Moi je me suis rapprochée d'une association qui n'est pas une association uniquement pour les personnes transgenres. C'est là-dedans que je me retrouve mieux, en fait. Et faut pas hésiter, en fait. La parole, c'est très important. Il faut pas avoir honte de pleurer, d'avoir mal, de souffrir de cette situation. Faut pas se culpabiliser et surtout parler. À partir du moment où on parle, c'est beaucoup plus facile. On peut décider de ne pas en souffrir.
Et que les parents aussi, on peut prendre aussi leur temps pour accepter la nouvelle.
Voilà, aussi à éduquer aussi nos enfants, à leur dire, non, pour moi, là, c'est difficile. Ça ne veut pas dire que je t'aime pas, ça ne veut pas dire que je remets en question ton genre ou ta transidentité, c'est que j'avance pas au même rythme que toi. Et ça, moi aussi, j'ai le droit. Je te respecte et toi aussi, tu dois me respecter dans ma déconstruction.
Et en plus, nous, je dis nous, moi en tout cas, quand j'ai fait mon coming out, j'avais déjà fait un long chemin pour moi avant. Et du coup, c'est normal que vous, après... Parce qu'en fait, nous, quand on le dit, ça y est, c'est acquis. On a envie que ça soit comme ça. Mais vous avez votre chemin aussi à faire après.
Il y a un décalage de...
Et c'est pour ça...
C'est juste qu'on ne fait pas le chemin en même temps, quoi.
C'est ça.
Là où eux, ils sont dans, du coup, c'est il, et ça se trompe encore sur il ou elle, en fait, nous, on est dans... c'est quoi la testostérone on en prend quand
ça, on va
et en fait, pas au même on est tellement pas au même endroit et au même moment qu'en fait, du coup, on n'arrive pas à se rendre compte aussi que leurs difficultés, c'est notre difficulté de nous, il y a quelques années.
Oui, c'est ça. En fait, on vit les mêmes difficultés, mais pas au même moment, et du coup, on a l'impression que ça avance pas assez vite ou trop vite en fonction de quel.
Oui. Et du coup, on a du mal à jauger.
Ça crée des.
C'est ça.
Ouais, un peu de l'indulgence des deux côtés. C'est pas mal et ça éviterait peut-être justement des ruptures de liens. En fait, la rupture avec les parents, c'est vraiment la dernière chose qu'il faut avoir. Donc. Il y a des parents qu'on peut sauver. Il y a quelques parents qu'on... Non, mais c'est vrai, tous ne sont pas... Enfin, voilà, il y a toute une nuance de gris, en fait. Donc, il faut essayer le plus possible de maintenir le lien avec les parents, sans vous oublier, surtout ne jamais vous oublier. Mais il y a quand même des portes qui peuvent être ouvertes avec les parents, et même si c'est pas dans l'entièreté, même si c'est partiel, c'est toujours bien d'avoir même une demi-béquille.
Et ben voilà, sur ces paroles, on peut clôturer cet épisode.
Encore une fois, merci beaucoup de la confiance.
Du coup, on
va se retrouver pour un prochain épisode la semaine prochaine.
La semaine prochaine, on ne sait pas encore ce que ce sera, mais ce sera la grande surprise.
Exactement.
Merci à tous d'avoir écouté, d'avoir regardé. On espère
et
que
merci
ça
à notre sponsor aussi, Waterdrop, qui permet du coup cette émission de se faire. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de
Contre Nature.
Ciao,
bye.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.